Un meurtre sur commande. Un brutal assassinat. Un quartier dans la confusion la plus totale. Pour le service de police de New York et le FBI, la ville de New York est le théâtre d'un combat sans fin. L'ennemi, les puissants narcotrafiquants qui ne s'arrêteront devant rien pour protéger leur commerce. À New York, dans les années 80, le service de police de la ville luttait désespérément contre les barons de la drogue. Le sergent détective Mike McGuinness faisait partie de la section des narcotiques du secteur du Queens.
Plusieurs organisations criminelles faisaient le commerce de cocaïne et d'héroïne dans le sud-est du Queens. L'une d'elles était menée par Lorenzo Fat Cat Nichols.
Lorenzo Fat Cat Nichols, âgé de 26 ans, était un grossiste en narcotiques. Il distribuait de la cocaïne et de l'héroïne à des vendeurs intermédiaires. Pour un kilo de cocaïne, il demandait $50,000. Il valait des millions de dollars. Nichols protégeait ses opérations en s'entourant d'un groupe très sûr, la plupart de ses complices étant des proches parents. Pour la police du Queens, démanteler l'organisation de Nichols ne serait pas une mince affaire. Son quartier général se trouvait dans une épicerie à l'intersection de la 107e avenue et de la 150e rue dans le quartier Jamaica de Queens.
On avait mené des opérations de surveillance à cet endroit et parlé à plusieurs informateurs. On avait aussi acheté de la drogue et fait des arrestations grâce à des agents civils. Le problème était permanent dans ce secteur. Mais on n'arrivait pas alors à monter un dossier solide contre Fat Cat ou l'un de ses lieutenants. Tout ça a cependant changé en juillet 1985. Une de nos équipes a mené une opération d'achat suivie d'une arrestation et a recueilli des informations. Ça nous a permis d'obtenir un mandat de perquisition de l'épicerie de Fat Cat et de l'appartement situé au-dessus du commerce. Un informateur nous avait dit qu'il y avait des armes, de l'argent liquide et plusieurs sortes de stupéfiants. Deux enquêteurs et moi-même sommes entrés dans l'épicerie. Je me suis dirigé derrière le comptoir et en m'y rendant, j'ai vu que la lumière était allumée dans l'arrière-boutique. Je suis alors entré dans l'arrière-boutique où il y avait trois hommes derrière un gros bureau. Je me suis rendu compte que l'un d'eux était Fat Cat Nichols.
Les policiers ordonnèrent aux hommes de mettre leurs mains sur le mur. Nichols se pencha alors comme s'il allait prendre quelque chose. Sur un fauteuil, sous une serviette, les policiers trouvèrent une arme automatique chargée et un revolver. Les policiers fouillèrent la pièce et y trouvèrent de l'héroïne, de la cocaïne et $30,000 en argent liquide. Il y avait aussi plusieurs grammes de marijuana sur le bureau de Nichols.
L'équipe qui est allée perquisitionner l'appartement à l'étage a trouvé $150,000 en argent liquide dans des cartons. Il y avait des centaines, voire des milliers de sachets en papier d'aluminium de cocaïne comme ceux que l'on trouve sur le marché noir. Des sachets de papier de cristal contenant de l'héroïne et d'autres armes.
Nichols fut arrêté pour possession d'armes et de stupéfiants. 24 heures plus tard, il fut remis en liberté après avoir payé sa caution de 70 000 $. Au moment de son arrestation, Nichols était déjà en liberté conditionnelle. Il alla rencontrer son agent de probation pour lui demander si son arrestation violait les termes de sa libération. Il déclara à son agent, Brian Rooney, qu'il n'était entré dans l'épicerie que pour y acheter un sandwich. Rooney appela McGinnis pour vérifier la version des faits du contrevenant.
Je lui ai raconté qu'on avait arrêté Nichols dans l'épicerie et qu'il avait plusieurs armes. Malheureusement, il avait été libéré sous caution et j'étais sûr qu'il avait disparu. Rooney m'a alors dit non, il est assis devant mon bureau.
Rooney arrêta Nichols pour violation des conditions de sa libération.
Ce que ça signifiait pour Nichols, c'est que même s'il avait pu être mis en liberté conditionnelle relativement à notre enquête, il avait enfreint les conditions de sa remise en liberté, et ça, c'était un vrai problème. En plus des crimes dont on l'accusait, nous, il devait 14 ans de prison à l'État. Il avait de gros ennuis.
Une semaine plus tard, McGinnis et Rooney témoignèrent lors de l'audience de libération conditionnelle de Nichols.
J'ai brièvement décrit ce qui était arrivé ce soir-là et l'arbitre a aussitôt déclaré qu'il avait violé les conditions de sa libération, ce qui signifiait qu'il serait incarcéré. Il n'avait plus droit qu'à une seule autre audience comme celle-là. Ensuite, il devrait purger ce qui lui restait de sa peine de 14 ans.
Mais le narcotrafiquant n'avait nullement l'intention de retourner en prison. Deux mois après l'audience, l'agent de probation de Nichols, Brian Rooney, reconduisit une de ses collègues à la maison. Il traversa la partie sud de Jamaica dans le Queens. Il savait que ce secteur du Queens était dangereux. Mais il ignorait qu'il était suivi. Bientôt, une voiture arriva à sa hauteur. Brian Rooney fut touché au bras et dans le dos. Il mourut sur le coup. Ses meurtriers disparurent aussitôt dans la nuit. Les policiers arrivèrent rapidement, mais ils ne pouvaient que constater le décès. Ils examinèrent la scène du crime et n'y trouvèrent que peu d'indices. Il n'y avait pas de douille de projectile et personne n'avait été témoin de la fusillade. La nouvelle du meurtre fut rapidement transmise au sergent détective Mike McGinnis.
Un sergent de mon bureau m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Il m'a appris qu'on venait de tuer un agent de probation sur Stutfen Boulevard. Il s'agissait de Brian Rooney. C'était un type bien et un bon agent de probation. Il avait à la fois des qualités de travailleur social et de policier, ce qui est nécessaire pour être un bon agent de probation.
Le meurtre de Rooney était le dernier d'une série d'homicides à Jamaica Sud. Des gangs rivaux se disputaient le territoire de distribution de la drogue.
Le taux d'homicide dans cette partie de la ville où l'on vendait des stupéfiants augmentait sans cesse. Les fusillades étaient monnaie courante. Les gens avaient peur de sortir de chez eux. On savait donc qu'on n'avait pas d'autre choix que de poursuivre ces gangs.
Le service de police de New York mit alors sur pied l'opération Clean Up, une importante opération anti-drogue. Ils firent appel à des centaines de policiers de postes de police partout à travers la ville. L'opération visait les vendeurs de drogue de Jamaica où Rooney avait été assassiné. Des enquêteurs ratissèrent également le quartier près de Sudfin Boulevard, où la fusillade avait eu lieu. Ils interrogèrent les gens du quartier en espérant que quelqu'un aurait vu quelque chose d'inhabituel le jour où l'on avait tué Rooney. La police apprit que deux hommes reliés à Lorenzo Fat Cat Nichols avaient été aperçus dans le secteur. Harold Mason et Perry Bellamy. Nichols avait un motif solide pour tuer Rooney.
Je crois que Nichols pensait que si Rooney ne lui barrait plus la route, il pourrait recouvrer la liberté. J'ignore pourquoi il pensait ça, mais c'est ce qu'il pensait.
À titre d'enquêteur ayant arrêté Nichols, McGuinness savait qu'il pouvait être la prochaine cible sur la liste.
Je regardais toujours derrière moi. J'étais prudent. Je ne me suis jamais empêché de faire ce que j'avais à faire, cependant. Mais que ce type ait pensé que s'il tuait cet agent, il pourrait être remis en liberté, c'était vraiment inhabituel. Et je crois que les gens des forces de l'ordre, ainsi que la population en général, trouvaient la situation très préoccupante.
Les policiers savaient Harold Pappy Mason, un des lieutenants de Nichols, et Perry Bellamy, un de ses complices, avait été vu dans le secteur le soir de l'assassinat de Rooney. Un informateur anonyme déclara que Bellamy était à l'extérieur de la voiture quand Rooney avait été abattu. Le lendemain, un autre informateur indiqua aux policiers où se trouvait Bellamy. Le tuyau permit aux policiers de trouver le suspect. Bellamy fut arrêté dans une rue de son quartier et conduit au poste de police pour y être interrogé. Il reconnut avoir vu Rooney à peine quelques heures avant le meurtre. Il affirma qu'il avait entendu parler de ce meurtre sur commande et qu'il avait essayé de mettre Rooney en garde. C'était pour cette raison qu'il se trouvait dans le secteur ce soir-là. Après plusieurs heures d'interrogatoire, les enquêteurs apprirent que Bellamy ne s'était pas contenté de mettre Rooney en garde. Bellamy déclara qu'il se trouvait dans la voiture de Rooney le soir où il avait été tué. Il ajouta que c'était Aaron Mason qui avait tiré sur l'agent de probation. Bellamy était derrière les barreaux quelques semaines avant le meurtre. Il prétendait avoir entendu Nichols déclarer à un autre détenu que son agent de probation allait y passer. Les autorités inculpèrent Bellamy de complicité pour le meurtre de l'agent Rooney. Par la suite, les enquêteurs se mirent à la recherche d'Howard Pappy Mason.
What's up, officer?
What's your name?
Mason. Man,
stick your hands up against the wall, brother.
Officer, I don't
stick
have...
your hands on the wall.
Give me a few minutes.
All right. Man, I got somewhere. I don't have my permit on me at the house.
Dans une des bottes du suspect, ils trouvèrent un pistolet Derringer de calibre 22 chargé. Mason fut accusé de meurtre et de possession illégale d'armes à feu. Les enquêteurs avaient mis les complices derrière les barreaux, mais ils ne pouvaient pas prouver que Fat Cat Nichols avait ordonné à Mason et à Bellamy d'abattre son agent de probation. Pendant que les autorités essayaient de se constituer un dossier contre Nichols, qui était toujours en prison, son organisation continuait de prendre de l'ampleur. En 1987, la situation dégénéra encore. Une nouvelle drogue venait de faire son apparition.
Le crack a pris la population d'assaut. Je n'avais jamais rien vu de tel.
L'agent spécial David Higgins travaillait alors pour l'escouade antidrogue de la police de New York.
La préparation de crack ne requiert qu'une petite quantité de cocaïne que l'on combine à d'autres ingrédients, ce qui fait qu'on n'en utilise que très peu. Ainsi, les vendeurs qui touchaient 100 dollars pour un gramme pouvaient désormais toucher 1000 dollars avec la même quantité.
La drogue se vendait à petit prix, seulement 2 dollars la dose, et elle créait rapidement une accoutumance. Pour la population ouvrière de Jamaïca, le crack représentait une réelle menace.
Comme cette drogue provoque une forte dépendance, les gens qui la consommaient cherchaient sans arrêt à être sous son effet et il faisait tout pour se l'offrir. Bien entendu, il commettait des crimes comme des vols et des cambriolages, ce qui avait un effet direct sur le taux de criminalité des quartiers où le crack était vendu.
Le service de police de New York redoubla d'efforts. On donna un autre nom à l'opération Clean-Up, l'opération Queens. Au début des années 80, une escouade antidrogue fédérale fut mise sur pied à New York. Son objectif était de mettre le grappin sur les vendeurs et les distributeurs de stupéfiants. L'agent spécial Richard Martinez fut assigné à cette escouade.
Cette escouade bénéficiait à la fois des ressources du FBI, de la police de New York et de la DEA, ainsi que d'autres services. On voulait une approche coordonnée pour attaquer le problème. L'escouade était divisée en plusieurs unités et chacune de ces unités avait sa propre mission. Notre mission à nous visait les revendeurs de cocaïne, d'héroïne et de crack qui sévissaient en ville.
L'escouade enquêtait sur plusieurs gangs de narcotrafiquants de Jamaïque.
On croyait que la meilleure chose à faire pour les citoyens de ce secteur, c'était de consacrer le plus de ressources possible à l'unité qui pourchassait ces types. Le plus de ressources possible.
La vente de stupéfiants à Jamaïque dans le Queens était une entreprise lucrative. Et plus les profits étaient élevés, plus la compétition était féroce et entraînait de la violence. Près de la moitié des crimes graves commis à New York étaient reliés à la vente de crack. En octobre 1987, la répartitrice d'une entreprise de taxi fut assassinée pour avoir témoigné en cour après avoir assisté à une fusillade. Un mois plus tard, un immigrant originaire de Guyane se plaignit à la police des types qui vendaient du crack dans sa rue. Le lendemain soir, quelqu'un lança une bombe incendiaire dans sa maison. Les agents de police du poste 103 de Jamaïque Sud furent assignés à la protection du témoin et de sa famille, mais les menaces continuèrent. Thomas Godbolt, un membre du gang de Lorenzo Fat Cat Nichols, s'approcha du témoin dans la rue. Il lui dit qu'il lui donnait 3 semaines pour quitter le quartier, sans quoi toute sa famille mourrait. En 1987, les vendeurs de stupéfiants faisaient la loi à Jamaïque Sud, dans le Queens. Les citoyens qui avaient le courage de s'opposer ouvertement à eux étaient intimidés quand ils n'étaient pas tués. Le service de police de New York et l'escouade antidrogue fédérale commencèrent à exercer de plus en plus de pression sur les gangs reliés au trafic de drogue de Jamaïque. Ils effectuèrent plus de 2000 arrestations relatives au commerce et à la possession de stupéfiants entre octobre 1987 et janvier 1988. À la fin du mois de janvier 1988, un des lieutenants de Lorenzo Nichols, Thomas Mustafa Godbolt, fut envoyé à la prison de Riker Island pour avoir menacé un témoin d'origine guyanaise. Le 24 février, Harold Pappy Mason, soupçonné d'avoir abattu l'agent de probation Brian Rooney, fut reconnu coupable de possession d'armes. Le lendemain, Lorenzo Nichols fut condamné à une peine minimale de 25 ans d'incarcération pour 11 chefs d'accusation de trafic de drogue et de possession d'armes.
On avait coupé la tête du serpent et capturé certains membres haut placés. Et notre dossier était solide. On croyait avoir démantelé cette organisation.
Le service de police de New York et le FBI progressaient dans leur lutte pour reprendre le contrôle des rues de Jamaïque. Mais la guerre était sur le point de devenir encore plus féroce. Le 26 février 1988, quelques jours après la condamnation de Nichols et de Mason, l'agent Edward Byrne assurait la protection du témoin guyanais. Même si l'homme qui avait menacé sa famille était derrière les barreaux, il recevait encore des menaces. Byrne était un tout jeune policier. Il n'avait que 22 ans. C'était une soirée comme les autres. À 3 heures du matin, une voiture passa à côté de celle de l'agent Byrne. Il y avait 4 hommes à bord. La berline poursuivit son chemin, tourna à l'intersection, puis disparut. Vingt minutes plus tard, 3 hommes arrivèrent silencieusement derrière la voiture de l'agent Byrne. Le témoin entendit des coups de feu. À 3h28, les répartiteurs transmirent aux unités la nouvelle. Un agent était tombé à Jamaica, dans le Queens. Des agents arrivèrent sur la scène quelques minutes plus tard. Les 2 vitres avant de la voiture de l'agent Byrne avaient été fracassées. Le jeune policier était mort.
Les policiers sont très touchés par cela. Ils sont ébranlés quand l'un des leurs est assassiné.
Le témoin que l'agent Byrne protégeait déclara à la police qu'il avait entendu des coups de feu et ensuite aperçu des hommes monter à bord d'une voiture brun clair avant de s'enfuir des lieux. Par après, les enquêteurs trouvèrent une Oldsmobile Cutlass 1976 de cette couleur, garée à environ 3 km de la scène du crime. Malheureusement, rien dans la voiture ne démontrait qu'elle était reliée au meurtre.
Immédiatement après le meurtre de l'agent Byrne, le service de police de New York a vraiment sévi contre les revendeurs de drogue. On a exercé beaucoup de pression sur les narcotrafiquants de Jamaïque. Les agents voulaient capturer les assassins de l'agent Byrne.
Des centaines d'agents de police de la 103e rue, de la 105e rue et de la 113e rue effectuaient des quarts de travail de 12 heures. Ils prirent le quartier sud-est du Queens d'assaut. Ils effectuèrent des raids dans près de 200 endroits et interrogèrent pas moins de 300 présumés vendeurs de drogue. Les policiers croyaient que Lorenzo Nichols avait commandé le meurtre de son agent de probation depuis la prison. Et l'homme qui avait menacé le témoin que protégeait l'agent Byrne avait des liens avec l'organisation de Nichols. Nichols était assurément un suspect dans cette affaire. Au moment du meurtre de l'agent Byrne, plusieurs membres de l'escouade du FBI enquêtaient sur un narcotrafiquant du Queens qui avait des liens avec le gang de Nichols.
On a simplement modifié l'angle de notre enquête. On s'est mis à examiner le gang de Smith qui faisait affaire avec plusieurs personnes associées à Nichols. On y est ensuite allé à plein gaz. On obtenait des informations sur l'organisation de Nichols parce que nos informations nous provenaient des mêmes taupes que celles de l'organisation de Smith. On a ciblé des membres du gang qui étaient toujours en liberté et qui poursuivaient les opérations de l'organisation.
3 jours après le meurtre, un informateur anonyme déclara qu'il savait qui avait tué le policier. Un enquêteur le convainquit de venir le rencontrer. L'homme déclara à la police que le meurtrier était un certain Todd Scott. Les agents connaissaient déjà Scott. Il était soupçonné d'avoir tué une prostituée. Les enquêteurs se mirent à sa recherche. À l'appartement d'un de ses proches, ils trouvèrent quelqu'un qui était prêt à parler. Celui-ci déclara aux enquêteurs qu'il connaissait les hommes qui avaient commis l'assassinat. Il était présent lorsque ce meurtre avait été planifié et il savait qui l'avait commandé. Le 24 février, seulement quelques heures après sa condamnation pour port d'armes illégales, Howard Mason avait appelé l'un de ses revendeurs, Philip Copeland, depuis un téléphone public de la prison de Rikers Island. Le lendemain, Copeland avait rencontré les membres Todd Scott, David McClary et Scott Cobb dans un appartement à 10 pâtés de maison de la scène du crime. Copeland leur avait annoncé que le patron était devenu fou. Il leur avait demandé de tuer un policier, n'importe lequel. Il devait toucher $8,000 pour ce meurtre. Selon l'informateur, les hommes avaient tiré à la courte paille pour choisir le tueur. C'est Todd Scott qui appuierait sur la détente. Le destin de l'agent de police était scellé. Le lendemain matin, Scott revint à l'appartement en se vantant de ce qu'il avait fait. Ils ne touchèrent que quelques centaines de dollars des 8000 qui avaient été promis.
Ce type m'a raconté comment s'était déroulé le meurtre et qui ils avaient choisi comme cible. Ils ne visaient pas l'agent Byrne personnellement. Ils avaient simplement choisi de tuer le policier qui protégeait la maison du témoin. C'était ça leur cible.
Howard Mason voulait par ce meurtre envoyer un message clair aux autorités.
Votre réputation est très importante quand vous êtes un narcotrafiquant. Si l'on apprend que vous avez hésité à commettre des actes violents pour vous protéger, vous ou votre organisation, vous ne pourrez pas être un narcotrafiquant pendant très longtemps. Mais ce meurtre a littéralement galvanisé le service de police de New York. Tous les agents étaient révoltés par ce meurtre d'un collègue portant l'uniforme. Il n'avait pas été tué pour ce qu'il avait fait, mais simplement parce qu'il était agent de police.
La police de New York avait enfin les noms de suspects relativement au meurtre. On émit des mandats pour Philip Copeland, Todd Scott, Scott Cobb et David McLary. Copeland était déjà en prison pour une autre affaire. Les policiers se mirent à la recherche des trois autres hommes. Plus tard, au cours de l'après-midi, la mère de Scott Cobb appela la police. Elle voulait que son fils se rende à la police, mais celui-ci était introuvable. Les enquêteurs, qui croyaient que Cobb finirait par contacter sa mère, installèrent un dispositif sur sa ligne téléphonique afin de connaître les numéros de toutes les personnes qui l'appelleraient. L'histoire du meurtre continuait de faire la une des journaux et la police talonnait toujours les revendeurs. Peu de temps après, un important témoin se manifesta. Une jeune femme déclara aux enquêteurs qu'elle avait assisté au meurtre de l'agent Byrne. Elle marchait dans la rue quand elle avait entendu un coup de feu et aperçu des hommes tout autour d'une voiture de patrouille. Elle s'était cachée derrière un véhicule jusqu'au départ des hommes. Elle ne croyait pas qu'il l'avait vue. Les enquêteurs lui montrèrent des photos signalétiques. Elle confirma que Todd Scott était l'homme qu'elle avait vu devant la vitre du côté du passager de la voiture de patrouille. Elle identifia également David McLary comme étant l'homme devant la vitre du côté du conducteur et Copeland, l'homme debout derrière McLary. Les policiers disposaient enfin d'un témoin à cette fusillade. Ils devaient maintenant trouver les suspects qui avaient disparu. Le jour après avoir installé un dispositif sur la ligne téléphonique de la mère de Scott Cobb, les policiers obtinrent quelque chose. Un appel à cette ligne provenait du Queens Village. Il s'agissait d'un des repères d'Howard Mason. Le 3 mars, moins d'une semaine après le meurtre de Byrne, les enquêteurs aperçurent Scott Cobb.
Hey man.
Step down and put your hands behind your back.
Slow.
Il fut rapidement mis en détention. Les policiers fouillèrent ensuite le repère. Dans le sous-sol, ils trouvèrent Todd Scott. À midi le lendemain, David McLary se rendit à la police. Sa mère l'accompagnait. Des quatre hommes accusés de la mort de Byrne, McLary était le seul n'ayant aucun dossier criminel. La version des faits de Todd Scott et de David McLary était contradictoire, chacun accusant l'autre d'avoir appuyé sur la détente. Dans toutes les versions des faits, toutefois, on disait que Scott Cobb se trouvait au volant de la voiture du groupe. La police et les procureurs purent finalement reconstituer les faits. À 3h25 du matin, Todd Scott avait attiré l'attention de l'agent Byrne en frappant sur la vitre du côté du passager de la voiture de patrouille. David McClary avait ensuite tiré à 5 reprises sur l'agent Byrne à travers la vitre du côté du conducteur. Philip Copeland se trouvait juste derrière McClary. Les 4 hommes furent accusés de meurtre au second degré. Mais pour les agents et les policiers, des questions restaient toujours en suspens. Est-ce que Harold Pappy Mason avait pris seul la décision de faire tuer le policier? Fat Cat Nichols avait-il joué un rôle dans ce meurtre? Et si oui, comment pourrait-on le prouver? La police et les agents du FBI soupçonnaient 2 hommes d'avoir commandé le meurtre d'un agent de police de New York, le narcotrafiquant Lorenzo Fat Cat Nichols, ou son ancien employé, Pappy Mason. L'agent spécial David Higgins.
L'enquête sur le meurtre de l'agent Byrne était sous la responsabilité de l'État. Elle était menée par le service de police de New York. Pendant cette enquête pour homicide, les autorités fédérales et les membres locaux de l'escouade fédérale menaient une enquête parallèle qui ciblait toute l'organisation de Nichols.
Les enquêteurs se rendirent alors compte qu'il ne suffisait pas de mettre en prison les chefs de l'organisation et leurs lieutenants. Pour mettre un terme à la violence, on devait détruire les gangs. Le réseau de distribution de drogue de Fat Cat Nichols était énorme et rapportait plus de 20 millions de dollars par année.
Grâce à des informateurs, on avait déjà établi que le centre névralgique des opérations de l'organisation de Nichols était le Big Mac Deli, situé dans le secteur de Laurelton, dans le Queens. On a immédiatement obtenu l'autorisation d'examiner les relevés d'appel de cet endroit.
Pour enquêter sur cette dangereuse et imposante organisation, le FBI se servit de micros. L'agent spécial Richard Martinez fut assigné à cette mission.
C'est seulement par ce moyen qu'on peut recueillir des informations sur des gangs importants. Quand un agent d'infiltration achète de la drogue d'un vendeur, il ne rencontre qu'une ou 2 personnes. Pour démanteler toute l'organisation, on doit pouvoir faire de l'écoute électronique.
Les agents posèrent des micros au quartier général de Nichols, mais ils ne tardèrent pas à avoir des problèmes.
Les suspects qui faisaient partie du gang de Nichols craignaient tellement d'attirer l'attention des autorités, comme c'était arrivé à la suite du meurtre de Byrne, qu'ils étaient déjà convaincus que toutes leurs conversations étaient enregistrées. Ils ont alors décidé de mener leurs opérations à un autre endroit.
Les agents ciblèrent la famille de Nichols. Une semaine après le meurtre, ils commencèrent à écouter les conversations de la sœur de Lorenzo Nichols.
On savait que plusieurs vendeurs intermédiaires transigeaient avec elle. C'était donc une bonne idée de poser un micro sur sa ligne. Elle parlait fréquemment à Lorenzo Nichols ainsi qu'à 10 distributeurs intermédiaires pour qui elle préparait des commandes. Elle transmettait souvent leurs commentaires à Lorenzo Nichols. Elle était au cœur de l'organisation et c'était un coup de chance pour nous parce qu'elle aimait parler.
La sœur de Nichols avait peur d'être surveillée.
Elle disait que sa ligne était sur écoute et demandait à ses interlocuteurs de ne rien dire, mais souvent, c'était elle qui parlait. Parfois même, elle laissait le combiné décrocher, ce qui nous permettait de tout entendre dans la maison. Et l'on pouvait l'entendre parler avec ses types quand ils venaient s'approvisionner.
Grâce au micro, le FBI enregistra une conversation clé entre Nichols et sa sœur où il parlait de Pappy Mason.
Au cours d'une conversation en particulier, elle a demandé pourquoi Pappy Mason avait fait tuer l'agent Byrne. Et Lorenzo lui a dit qu'il l'ignorait. Pappy Mason avait la réputation d'être un type violent. Et vers la fin, même Lorenzo avait pris ses distances de lui. Il ne voulait plus lui parler parce que Mason attirait trop l'attention des autorités. Avant cette conversation, tout semblait indiquer que Lorenzo était mêlé à ce meurtre. Mais à la suite de cette conversation et après avoir corroboré ces informations avec nos contacts, on a su que c'était Howard Mason qui avait commandé le meurtre de l'agent de police Byrne. Pape Mason était d'avis que le service de police lui manquait de respect. Il avait donc ordonné à ses associés d'aller tuer un policier, n'importe lequel.
Ainsi donc, Nichols n'avait joué aucun rôle dans le meurtre de l'agent Byrne, mais ses opérations continuaient de prendre de l'expansion et de fournir des narcotiques à de dangereux gangs de rue.
On a pu établir, par nos opérations d'écoute, que Lorenzo Fat Cat Nichols communiquait régulièrement avec les membres clés de l'organisation. Toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, un groupe le rencontrait pour qu'il puisse donner ses consignes en personne sur la façon de gérer l'organisation.
Les agents posèrent des micros dans la salle de visite de la prison de Rikers Island. Ils tentèrent ensuite d'écouter les échanges de Lorenzo Nichols avec ses lieutenants. Malheureusement, la qualité du son était trop pauvre pour qu'ils puissent comprendre la moindre chose. Les agents et la police continuèrent néanmoins à consolider leur dossier.
On a su comment ils distribuaient la drogue et comment ils la préparaient. On a pu identifier certains de leurs fournisseurs et savoir qui communiquait avec qui et comment ils s'y prenaient. On a évalué l'ampleur de leur trafic et établi la liste de quelques-uns de leurs clients. Cela nous a ensuite permis d'établir la position hiérarchique de chacun au sein de l'organisation. On a poursuivi nos opérations de surveillance en nous basant sur les informations recueillies grâce au micro.
Mais les opérations de surveillance étaient ardues. Les vendeurs de drogue les plus prospères sont rusés et ils savent comment déjouer les autorités qui tentent de recueillir des informations.
Les narcotrafiquants ont des techniques de contre-surveillance. Ils paient littéralement des gens dans la rue pour qu'ils surveillent les policiers dans un secteur en particulier.
Quand les agents eurent recueilli suffisamment d'informations grâce au micro, ils procédèrent à des arrestations.
Quand, par exemple, on interceptait un appel dans lequel il parlait d'une transaction ou du transport de stupéfiants d'un endroit à un autre, je disais aux enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire de passer à l'action.
Après 5 longs mois, les agents rencontrèrent le procureur.
Il était temps de faire inculper des suspects, d'obtenir la coopération d'autres personnes et de faire des perquisitions pour trouver les armes et la drogue et confirmer ce qu'on avait entendu lors des conversations.
Martinez croyait qu'ils avaient un motif raisonnable pour obtenir des mandats de perquisition et d'arrêt.
Il faut attendre le moment approprié pour passer aux actes. Et c'est ce qu'on a fait en août.
Le procureur était d'accord. Le moment était venu de démanteler l'organisation de Nichols. Après 5 mois d'enquête, l'agent spécial Richard Martinez planifiait une opération d'arrestation complexe et risquée. Son but était le démantèlement complet de l'organisation de trafic de drogue de Nichols.
Le jury avait besoin de 3 choses pour en arriver à un verdict de culpabilité formel. Numéro 1, il devait entendre le témoignage de quelqu'un de l'intérieur, d'un informateur. Deuxièmement, à titre d'enquêteur, je devais fournir des enregistrements des prévenus qui montraient les activités quotidiennes de l'organisation. Et finalement, on devait présenter des preuves matérielles.
Lors de l'opération, on allait procéder à des arrestations dans 20 endroits différents. Les agents croyaient que les mandats de perquisition leur permettraient de trouver des preuves matérielles, des armes à feu, des stupéfiants et de l'argent. Ils devaient également arrêter 38 suspects. Ils espéraient que certains d'entre eux collaboreraient avec les autorités.
Quand le jury écoute un collaborateur ainsi que les conversations qui ont été interceptées ou enregistrées sciemment par lui et que les preuves corroborent ce qu'il dit, il ne peut en arriver qu'à un verdict. Le prévenu est coupable.
Les agents préparèrent des affidavits et coordonnèrent les quelques 400 corps policiers nécessaires à l'exécution de l'opération. Toutes les personnes qui y participaient connaissaient les risques qu'elles couraient.
Il y a toujours des dangers lorsqu'on exécute des mandats de perquisition et des mandats d'arrêt. On ne sait jamais comment ces types vont réagir. On doit être bien armé et assez nombreux pour réduire au maximum le risque de violence.
Le 11 août 1988, les affidavits avaient été préparés. Les mandats de perquisition et d'arrêt étaient émis et les équipes d'arrestation étaient prêtes. Tout était en place.
Chacun sait ce qu'il a à faire, qui il va arrêter et où il doit aller. Le temps était venu de procéder aux arrestations.
Plusieurs des endroits ciblés étaient très dangereux.
Dans trois de ces endroits, on a déployé des unités SWAT parce qu'il y avait un risque de violence.
Les équipes se rendirent aux endroits où les stupéfiants étaient entreposés et vendus.
Heureusement, il n'y a pas eu de fuite au cours de cette enquête. Nos suspects ignoraient donc qu'on allait les arrêter quand on est passé à l'action.
La sœur de Nichols fut surprise par une équipe d'arrestation. Elle réagit avec colère.
C'était une enquête assez unique, en ce sens que les mères de plusieurs suspects étaient impliquées. Il y avait la mère de Lorenzo Nichols, par exemple, de même que celle d'Howard Mason. Cette dernière a été arrêtée parce qu'on a trouvé chez elle un kilo de crack et un pistolet.
Un peu partout à Jamaica, dans le Queens, les membres de l'organisation de Nichols furent arrêtés et l'ont recueilli des indices.
Lors de l'exécution des mandats de perquisition, on a trouvé des armes à feu et une importante quantité de matériel d'emballage et de crack. En outre, plusieurs suspects avaient de grosses sommes d'argent sur eux. On a tout saisi.
Lorenzo Fat Cat Nichols et Howard Pappy Mason furent tous deux accusés de crimes reliés au trafic de drogue. Ainsi, ils resteraient derrière les barreaux pour le restant de leur jour. À la fin de la journée, 30 personnes avaient été arrêtées et 5 propriétés avaient été saisies. La sœur de Nichols et d'autres membres clés de l'organisation décidèrent de collaborer avec la justice. La violente organisation de trafic de stupéfiants qui valait plusieurs millions de dollars fut démantelée. Pour Lorenzo Nichols, c'est le meurtre de l'agent Edward Byrne, un meurtre dans lequel il n'a pourtant joué aucun rôle, qui a provoqué la chute de son empire.
Lors de cette enquête, on a démantelé le gang de Lorenzo Nichols. Celui-ci a été inculpé et il a comparu en cour. Tous les membres de l'organisation ont été accusés et sont allés en prison.
En 1992, Lorenzo Nichols plaida également coupable d'avoir commandé le meurtre de l'agent de probation Brian Rooney. Plus tard, au cours de la même année, on obtint de nouvelles informations concernant cette affaire. Randolph Lucas, qu'on avait arrêté pour un autre crime, avoua avoir joué un rôle dans l'affaire. Selon lui, son frère Eric conduisait la voiture quand il avait tiré sur Brian Rooney et l'avait tué. Ils avaient été engagés par un associé de Nichols pour blesser Rooney, mais dans la panique, ils avaient abattu l'agent. Personne n'a jamais su pourquoi Perry Bellamy avait déclaré s'être trouvé sur la scène du crime et vu Aaron Mason abattre Brian Rooney. Le travail de l'escouade antidrogue de la police de New York et du FBI, qui ciblait les trafiquants de drogue du Queens, a eu un profond impact sur les crimes reliés au commerce de stupéfiants. L'agent spécial David Higgins, du FBI.
L'escouade antidrogue de New York a fini par envoyer un message aux trafiquants de la rue. Le crime ne paie pas. Si vous vous livrez au trafic de drogue à New York, vous devrez ultimement affronter la justice dans une cour fédérale. Je crois que ce message s'est répandu dans les rues de New York et dans celles d'autres villes importantes parce que le taux de crimes violents a diminué de façon significative dans les années 90. et je crois que c'est arrivé grâce à toutes ces poursuites et à leur heureuse conclusion.
On a mis le nom de Brian Rooney sur un monument funéraire dédié aux agents de probation tués dans l'exercice de leurs fonctions. Quant à l'agent Edward Byrne, on a créé une fondation à son nom. Leur mort a permis de démanteler une violente organisation qui menaçait un quartier que les policiers avaient juré de protéger. Depuis les Caraïbes jusqu'à la côte est des États-Unis, un dangereux gang de narcotrafiquants amasse des millions de dollars, mais l'identité du chef du gang reste un mystère. Plus les membres du gang prospèrent, plus ils deviennent violents. Pour démanteler le gang, les agents et les policiers devront identifier le chef afin de l'arrêter. Les îles Vierges américaines sont un véritable paradis pour les touristes. L'archipel foisonne de forêts tropicales et de kilomètres de plages. Et ce paradis est juste à côté des États-Unis. Mais ces îles cachent un lourd secret. Les autorités les appellent l'entonnoir à cocaïne. Comme l'archipel est situé à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, plusieurs gangs s'y arrêtent pour faire entrer d'énormes quantités de cocaïne aux États-Unis. Au début des années 90, un gang se faisant appeler les Island Boys fit entrer des milliers de kilos de cocaïne aux États-Unis depuis les îles Vierges. Ils avaient choisi la petite ville d'Augusta en Géorgie comme point d'entrée principal de la cocaïne sur le continent. Une fois au pays, ils la transformaient en crack. L'agent spécial Tim Cox du FBI.
C'est principalement la population de cette localité qui les a attirés à cet endroit. À ce moment-là, on y comptait plusieurs quartiers défavorisés où des criminels n'attendaient que l'occasion de vendre du crack. En outre, ce n'était qu'à 2 heures de route d'Atlanta et de Savannah.
Mais la rivalité entre les Island Boys et les gangs locaux était féroce. Eugene Smalls dirigeait les opérations à Augusta pour les Island Boys. Ses affaires allaient bien. En 1991, le gang rapportait des millions de dollars et Smalls était une cible intéressante. La rumeur disait qu'il avait toujours 1 million de dollars en argent liquide dans un coffre bancaire dont il gardait la clé autour du cou. La police d'Augusta arriva sur les lieux. Le coffre d'Eugene Smalls était vide et le puissant narcotrafiquant luttait pour sa vie. Il survécut, mais il avait subi de graves blessures. L'augmentation du taux de criminalité d'Augusta préoccupait la police et les Island Boys en étaient la cause principale. La police d'Augusta discuta de ce problème avec le FBI. Les enquêteurs commencèrent par dire aux agents ce qu'ils savaient du gang.
Les autorités locales, par le biais de leurs informateurs et de types arrêtés antérieurement, savaient qu'il y avait à Augusta de plus en plus d'hommes en provenance des îles Vierges. Selon des informateurs, ils faisaient entrer de plus en plus de grosses quantités de cocaïne dans la région.
En octobre 1992, le FBI et le service des douanes travaillèrent de concert pour se constituer un dossier contre les Island Boys. Cox les soupçonnait de collaborer avec un important cartel colombien. Une chose était sûre, ils étaient aussi mystérieux que dangereux.
Comme on n'avait pas réussi à infiltrer le gang, on devait recueillir le plus d'informations possible, morceau par morceau.
Les agents recueillirent les photos des présumés membres du gang prises par l'escouade locale des narcotiques. Voici Larry Sapp, qui était alors agent au service des douanes américaines.
On ne les connaissait pas tous. On a conservé leurs photos en se disant qu'on les identifierait plus tard.
Les agents examinèrent également tous les rapports en relation avec les Island Boys. Un des rapports était particulièrement intéressant. Un mois plus tôt, des agents de la DEA avaient aperçu Eugene Smalls à l'aéroport d'Atlanta. Malgré ses blessures, le trafiquant était venu en personne chercher un homme en provenance des îles Vierges. Les agents décidèrent de prendre Smalls en filature. Ils communiquèrent bientôt avec la patrouille des autoroutes de la Géorgie afin qu'un agent arrête Smalls pour excès de vitesse.
La DEA s'est alors jointe à la police locale. Ils les ont fait descendre de voiture, les ont fouillés, leur ont confisqué leur argent et ont essayé de les interroger.
Smalls pouvait à peine marcher. Le passeport de son passager, James Springett, avait été émis aux îles Vierges américaines. Les agents fouillèrent également la voiture, mais n'y trouvèrent rien. Aucune drogue, aucune arme, et, fait étonnant, très peu d'argent. Ils photographièrent ensuite les deux hommes, leur carte d'identité et leur carte de crédit, et durent ensuite les laisser partir. Maintenant, les agents pourraient suivre à la trace les déplacements des suspects grâce à leur numéro de carte de crédit. Mais il y avait toutefois un inconvénient à cette arrestation.
Ils savaient qu'ils étaient surveillés et pouvaient modifier leur comportement. Ils seraient dorénavant plus prudents, et particulièrement lors de leurs déplacements.
Les agents se posaient des questions sur James Springett. Qui était-il et quel rôle jouait-il dans l'affaire? Eugene Smalls était allé le chercher personnellement à l'aéroport alors qu'il se remettait à peine de ses blessures. À l'évidence, James Springett était un homme important. L'agent spécial Cox contacta le service de police local pour savoir si on détenait des informations sur lui. L'escouade des narcotiques du bureau du shérif de Richmond County luttait contre le gang depuis son arrivée à Augusta, mais n'avait jamais entendu parler de James Springett. Pour arrêter les Island Boys, les autorités policières devraient recommencer le travail depuis le début.
On a commencé dans les rues et effectué des opérations de surveillance, en plus d'essayer d'infiltrer le gang.
Les agents rencontrèrent alors un autre obstacle. Les Island Boys avaient la réputation d'être si violents que même les informateurs payés craignaient de divulguer des informations sur le gang.
On avait du mal à trouver des informateurs. Ceux-ci craignaient de faire affaire avec eux parce qu'ils avaient la réputation de s'en prendre aux gens et de les tuer.
Pendant les opérations de surveillance, les autorités fédérales virent des membres du gang louer des chambres de motel à plusieurs reprises, d'où ils effectuaient des transactions. Après leur départ, les agents fouillaient les lieux.
Vous seriez surpris par tout ce qu'on pouvait y trouver. Des numéros de téléphone, des photos, etc. Dans cette enquête, c'était comme si on avait rempli une pièce de morceaux de puzzle qu'on essayait d'assembler pour découvrir qui était qui.
La pression permanente et intense que la police exerçait sur Eugene Smalls, le chef des Island Boys d'Augusta, finit par avoir raison de lui.
On ne lâchait pas.
Eugene Smalls décida alors de s'en aller en Virginie.
Je crois personnellement que Eugene est parti parce que le gang faisait l'objet de trop d'attention à Augusta.
Après le départ de Smalls, un certain Shakim Gabriel devint le nouveau chef des Island Boys et dirigea les opérations à Augusta en Géorgie. L'agent Sapp alerta les autorités de la Virginie de l'arrivée de Eugene Smalls.
Ils se sont mis sur son dos dès son arrivée. L'enquête progressait bien.
Smalls fut arrêté à Virginia Beach pour trafic de narcotiques. Il fut finalement inculpé puis condamné à 90 ans d'incarcération. À Augusta, les agents concentrèrent leur attention sur Shakim Gabriel, le nouveau chef des Island Boys. il soupçonnait le gang de faire transiter la drogue par l'aéroport d'Atlanta.
À voir leur train de vie et les énormes quantités de cocaïne qu'ils vendaient, il était évident qu'ils en faisaient venir des valises pleines et que beaucoup de passeurs de drogue travaillaient pour eux.
Le 14 juin 1995, des agents d'Atlanta trouvèrent une valise contenant 7 kilos de cocaïne.
James, would you change this around? Who delivered the coke to?
Les enquêteurs interrogèrent le passeur, qui leur avoua que la drogue était destinée à Shakim Gabriel à Augusta.
On a pu corroborer cette information grâce à certains appels téléphoniques et constater que le passeur disait la vérité.
En se basant sur la déposition du passeur, les autorités obtinrent un mandat d'arrêt contre Gabriel et un mandat de perquisition de sa maison. Le 15 juin 1995, les autorités exécutèrent les deux mandats. Mais les agents qui arrivèrent chez Gabriel ignoraient que celui-ci les attendait derrière la porte de sa maison. À Augusta, en Géorgie, le FBI, de même que le service des douanes et la police locale, travaillaient de concert pour démanteler un dangereux gang de narcotrafiquants. Les enquêteurs arrêtèrent Shakim Gabriel, l'homme qu'ils croyaient être à la tête des Island Boys à Augusta. Gabriel fut accusé d'avoir tenté de prendre possession de 7 kilos de cocaïne d'un passeur des îles Vierges. On trouva chez lui des documents, des photos et 15 000 dollars en billets d'un dollar. L'agent spécial Tim Cox.
Apparemment, Shakim se trouvait trop bien pour payer avec des billets d'un dollar, alors il les mettait dans des pots.
Pour les autorités, l'arrestation de Gabriel était un succès sur toute la ligne. Mais cela n'arrêta pas les Island Boys. Dès que Gabriel fut mis en détention, de nouveaux chefs prirent les commandes du gang.
Dès qu'on procédait à l'arrestation d'un membre du gang, d'autres types arrivaient des îles Vierges pour les remplacer et assurer la distribution de la drogue dans le secteur d'Augusta.
Les enquêteurs continuèrent de surveiller de près les Island Boys en ayant recours aux techniques qui leur avaient permis d'arrêter Gabriel, mais en vain. Il semblait bien que les Island Boys avaient changé leur façon de faire. Ils devaient avoir trouvé un nouveau moyen de faire passer la drogue aux douanes de l'aéroport. Les agents devaient découvrir comment ils s'y prenaient. Le service des douanes élargit son champ de recherche à la fois aux îles Vierges et aux États-Unis. Le 6 février 1996, les agents eurent un coup de chance quand une vérification faite au hasard leur permit de trouver de la cocaïne dans une valise qui arrivait à Atlanta. La valise appartenait à une adolescente qui vivait dans un HLM d'Augusta. Le gang avait échappé aux policiers en se servant de passeurs dont le profil ne correspondait pas à celui du passeur habituel. Voici Larry Sapp, qui était alors agent des douanes.
Ils trouvaient des jeunes femmes sans le sou et sans avenir. Il leur demandait si elles aimeraient aller passer des vacances payées aux îles Vierges pendant une semaine, à condition qu'elles rapportent un colis dans leur bagage. Bien entendu, elles acceptaient toutes.
C'était des jeunes femmes influençables qui n'avaient vu là qu'une occasion de gagner un peu d'argent. Elles avaient bien commis un crime, mais dans un certain sens, c'était aussi des victimes du gang. Elles n'ont pas pu nous fournir beaucoup d'informations, mais elles nous ont toutefois indiqué qui leur avait proposé ce marché et en quoi il consistait.
La jeune femme déclara aux enquêteurs qu'elle avait été engagée par la petite amie de Brian Gustave. Peu de temps après l'arrestation de Gabriel, Gustave et sa petite amie étaient venus des îles Vierges. Ils dirigeaient maintenant les Island Boys. La jeune femme fournit aussi aux autorités le nom d'autres femmes qui avaient transporté de la drogue. Il fallut compter plus d'un an pour recueillir toutes les preuves nécessaires contre les nouveaux chefs du gang. Mais les enquêteurs purent enfin arrêter Gustave et sa petite amie. Brian Gustave fut reconnu coupable de trafic de drogue. Quant à sa petite amie, elle accepta de négocier un aveu. Les agents avaient arrêté les chefs des Island Boys encore une fois.
Quand on les arrête et qu'on constate qu'ils continuent de plus belle une semaine plus tard, ça devient très frustrant. Mais c'est à cause de ça qu'on travaillait fort pour atteindre la tête de l'organisation, parce que c'était la seule façon de les arrêter.
Le fait d'arrêter les vendeurs de drogue d'Augusta n'avait aucune incidence sur la quantité de stupéfiants qui entraient aux États-Unis. Les agents savaient qu'ils devaient découvrir qui menait les opérations des Island Boys. Le chef devait sans doute se trouver aux îles Vierges.
En 1996, on a désigné les îles Vierges américaines comme étant un lieu où il y avait un trafic important de narcotiques.
L'enquêteur Chris Howell faisait partie d'un groupe d'intervention de la DEA qui visait spécifiquement les narcotrafiquants des îles Vierges américaines.
Jusque-là, on n'avait pas vraiment ciblé les individus qui avaient des circuits de trafic de cocaïne bien établis. Par conséquent, ces trafiquants étaient devenus très puissants et avaient beaucoup de ressources à leur disposition. On avait donc beaucoup de rattrapage à faire.
Les agents commencèrent par interroger des informateurs qui leur apprirent qu'une famille aisée de Sainte-Croix était mêlée à des envois de cocaïne en provenance de Colombie.
On a appris de certains de nos contacts secrets que l'un des membres de cette famille à Sainte-Croix était la petite amie de James Springett.
Les enquêteurs reconnurent ce nom. En 1992, les agents de la DEA avaient photographié Springett quand Eugene Smalls était venu le chercher à l'aéroport d'Atlanta.
Cet informateur nous a indiqué qu'il s'agissait du plus important narcotrafiquant des îles Vierges. On s'est alors concentré principalement sur James Springett.
Les enquêteurs découvrirent que la petite amie de Springett possédait plus d'une demi-douzaine de téléphones portables. Ces téléphones constituaient peut-être la clé qui permettrait de démanteler enfin le dangereux gang.
On a commencé par examiner les relevés des appels téléphoniques sur ces appareils. D'autres noms qui nous étaient déjà connus grâce à nos informateurs sont apparus sur les relevés. Il était évident que cette femme jouait un rôle dans l'affaire.
Pendant que les agents suivaient cette piste, ils continuaient d'interroger des informateurs. Ils apprirent ainsi qu'une petite quantité de cocaïne devait quitter San Tomas par hydravion. Une équipe de surveillance aperçut un présumé passeur de drogue qui mettait un carton à bord d'un hydravion. L'appareil décolla pour se rendre à la plus grande des îles Vierges américaines, Sainte-Croix.
On les a laissés décoller et partir pour Sainte-Croix, et l'on a fait surveiller l'endroit où ils devaient amerrir.
Quand l'hydravion amerrit, l'agent Chris Howell et la DEA l'attendaient. Il croyait que le carton était plein de cocaïne. Les agents devaient procéder à une arrestation sans histoire, mais le plan changea. Quelque chose semblait avoir effrayé le passeur de drogue. Les agents devaient passer à l'action.
Le type qui transportait le carton a couru jusqu'à la mer où il a sauté. Il a alors ouvert le carton et des sacs de cocaïne se sont mis à flotter sur l'eau.
Le passeur essayait de détruire les preuves.
Il savait que s'il ouvrait ses sacs, la cocaïne se dissoudrait dès qu'elle serait en contact avec l'eau. Mais je n'allais pas le laisser faire. Je voulais récupérer les 7 kilos de cocaïne et l'empêcher de déchirer ses sacs.
L'agent Howell recueillit plusieurs kilos de drogue et un téléphone portable acheté par la petite amie de Springett. Le passeur était en sérieuse difficulté et il le savait. Il refusa toutefois de révéler aux autorités pour qui il travaillait.
Dans les îles, il est très rare que les gens collaborent avec nous. Quand on arrête un type, même s'il risque plusieurs années de détention, il préfère purger sa peine plutôt que de nous parler.
À la suite de cette opération, les Island Boys étaient sur le qui-vive. Comme ils savaient que les autorités fédérales les surveillaient, ils changeaient rapidement de tactique.
Springett a décidé que le gang ne ferait plus transiter la cocaïne par les îles Vierges américaines.
Le gang stockerait plutôt les envois de narcotiques sur l'île de Tortola.
Les îles Vierges britanniques ne sont qu'à 5 ou 10 minutes de bateau de Saint-Thomas. On peut donc se trouver en eau britannique, et 5 minutes plus tard, on peut être en eau américaine ou dans les eaux internationales.
L'île de Tortola est britannique, donc à l'extérieur du territoire américain. Le 19 juin 1996, les Island Boys firent venir 1,5 tonne de cocaïne sur le rivage de Tortola.
On parle ici de chargements qui valaient des millions de dollars. Il est très rare qu'un groupe transporte d'aussi grosses quantités de drogue sans avoir de gardien armé.
Des Colombiens, lourdement armés, étaient sur place pour vérifier la cargaison.
Ces types ne devaient pas seulement veiller aux intérêts des Sud-Américains, mais également protéger la drogue.
La cocaïne fut chargée dans 2 véhicules, une camionnette et un pick-up. Cette livraison était si importante que James Springett supervisait lui-même le transfert. Les 2 véhicules se dirigèrent vers l'endroit où l'on devait entreposer la cocaïne. Les narcotrafiquants ignoraient alors que la police des îles Vierges britanniques les attendait. Les agents surveillaient le pick-up depuis plus d'un mois. Toutes les 2 semaines, le véhicule partait de l'extrémité est de l'île pour se rendre à l'extrémité ouest, lourdement chargé.
Ils croyaient qu'il s'agissait de trafic de drogue, mais ils croyaient également que le pick-up avait servi lors de vols commis dans le secteur est de l'île.
En voyant une camionnette et un pick-up s'approcher, les policiers passèrent à l'action. Le pick-up parvint à passer à travers le barrage routier, mais la camionnette, elle, fut contrainte de s'arrêter. Les suspects ouvrirent le feu. Avec leur arme automatique, leur puissance de tir était nettement supérieure à celle des policiers.
La plupart des agents avaient des revolvers qui pouvaient tirer 6 projectiles ou des fusils de chasse contenant 3 balles. Et ils devaient se battre contre des types armés de M16 qui tiraient en rafale.
Un agent fut blessé.
Un projectile l'a frappé sur le côté de la tête et il gisait dans une mare de sang dans la rue. Ils ont tout fait pour tenter de le garder en vie.
La camionnette s'enfuit. L'agent blessé fut alors conduit d'urgence à l'hôpital.
C'est incroyable qu'il ne soit pas mort. Un de ses yeux est sorti de son orbite. Il a perdu un œil, mais il a survécu.
Le lendemain, les policiers trouvèrent la camionnette 1,5 km plus loin. Les pneus, le radiateur et le moteur étaient criblés de balles. À l'arrière, les policiers trouvèrent 1260 kg de cocaïne. Ils trouvèrent aussi des lunettes de vision nocturne, des GPS et des lumières servant à envoyer des signaux aux avions. La police des îles Vierges britanniques croyait que les narcotrafiquants tenteraient de s'enfuir sur une autre île. Ils contactèrent alors les services de police des îles Vierges américaines et des autres îles avoisinantes et leur demandèrent de l'aide. Les autorités devaient localiser au plus vite ces dangereux hommes. S'ils avaient osé tirer sur un policier, personne n'était en sécurité. Dans les îles Vierges britanniques, une fusillade avait éclaté entre des narcotrafiquants lourdement armés et la police locale. Les trafiquants s'étaient enfuis, mais les enquêteurs avaient saisi une camionnette remplie de cocaïne. La police avisa ses homologues des îles voisines de demeurer à l'affût.
C'était comme lorsqu'on envoie un message spécial à toutes les unités.
L'enquêteur Chris Howell.
Ils ont informé tous les policiers des événements et leur ont dit de surveiller les plages, les marinas, les quais et tous les endroits où ces types pouvaient se trouver.
Les policiers des îles étaient sur le qui-vive. Tôt le lendemain matin, des agents arrêtèrent un bateau suspect. Bien qu'il n'y eût pas de drogue ni d'armes à bord, ils trouvèrent une importante quantité d'argent liquide.
On les a interrogés, puis on les a laissés aller parce qu'on n'avait pas assez d'indices pour les garder en détention. Ces individus étaient, selon nos informateurs, des membres de l'équipage du bateau de Springett.
Il s'agissait de l'équipage qui avait transporté la cocaïne retrouvée par les policiers à Tortola. Quelques jours plus tard, la police des îles Vierges américaines trouva le corps de l'un des membres de cet équipage. Il avait été tué de deux projectiles à la nuque, comme si on l'avait exécuté.
Pour moi, cela indiquait que l'organisation de Springate ne tolérait pas l'échec. Il fallait que quelqu'un paie pour la perte de cette cargaison, même si cela signifiait qu'ils doivent mourir.
En Géorgie, l'agent spécial Tim Cox du FBI et l'agent Larry Sapp des douanes américaines suivaient quelques pistes. Ils avaient mis sous surveillance un certain Ronnie Pemberton, qui selon lui était le plus récent chef des Island Boys à Augusta. Trois mois après l'affrontement de Tortola, l'agent Tim Cox décida d'envoyer un message clair à Pemberton à l'aéroport d'Atlanta.
J'avais entendu dire par l'un de nos informateurs que Pemberton avait déclaré que j'étais un idiot et que je ne l'arrêterais jamais. J'ai alors pensé qu'il serait intéressant de me présenter à lui. Je suis allé à l'aéroport à son arrivée et je lui ai dit « Bonjour Ronnie, bienvenue au pays, je ne serai jamais loin. »
Quelques mois s'écoulèrent. Au début de 1997, aux îles Vierges, deux agents eurent le coup de chance qu'ils espéraient. Un membre des Island Boys vendait de la cocaïne depuis une chambre d'hôtel de San Tomas. Un autre membre du gang et un acheteur qui devait abattre le vendeur lui rendirent leur visite sans s'annoncer. Le type des Island Boys essaya d'alerter son ami en frappant à la porte d'une façon particulière. Le vendeur comprit le message. Il s'enfuit par une fenêtre. Mais l'île était un endroit bien petit pour se cacher, et il y avait des membres du gang un peu partout. Le vendeur terrifié se rendit alors aux autorités. En échange de sa protection, il accepta de dire tout ce qu'il savait des Island Boys au FBI et de leurs transactions en Géorgie. Larry Sapp était alors agent des douanes américaines.
Il a été le premier à nous décrire toutes les transactions, nous dire qui étaient les chefs et comment ils s'y prenaient pour faire entrer la drogue, pour la distribuer et qui s'occupait de la distribution. Ça a fait énormément progresser l'enquête.
Les agents connaissaient enfin le dangereux gang de l'intérieur. Ils commencèrent à se constituer un dossier contre le présumé chef du gang, James Springate.
On a fouillé dans les relevés de voyage au service des douanes et découvert qu'il était allé dans plusieurs pays. Ensuite, on a tenté de savoir par des opérations d'écoute électronique quand il viendrait et avec qui il s'entretiendrait. En faisant cela et en suivant à la trace les envois de drogue, on pouvait savoir où James se trouvait. Il s'agissait en fait de preuves indirectes qui impliquaient James.
James Springate était prudent et ne se salissait jamais les mains. Il faisait faire le sale boulot à ses intermédiaires et se trouvait rarement en contact direct avec la cocaïne. Au même moment, sur l'île de Sainte-Croix, la DEA convainquit un juge de la Cour fédérale de lui permettre d'enregistrer les conversations d'une famille connue, soupçonnée de trafic de drogue et qui avait des liens étroits avec Springate.
C'était la première fois qu'on faisait une telle demande aux îles Vierges.
Les agents de la DEA installèrent secrètement un micro dans une station de commutation qu'ils dissimulèrent soigneusement. Pendant un mois, au cours de l'été 1997, les enquêteurs purent écouter des conversations téléphoniques tout en surveillant les suspects. Ceux-ci faisaient souvent référence à la petite amie de Springate, mais sans jamais vraiment dire quelque chose de concret. Les Island Boys étaient prudents quand ils parlaient au téléphone.
Quand la conversation commençait à être intéressante, on les entendait dire « Laisse-moi te rappeler ». Les agents qui les surveillaient les voyaient alors raccrocher, sauter dans leur voiture et se rendre à une cabine téléphonique où ils terminaient leur conversation. Dès le début, ces types savaient qu'on les écoutait. Quand des criminels savent que leurs conversations sont enregistrées, on peut s'attendre à ce qu'ils soient prudents. Malheureusement, on ne savait pas ce qu'ils se disaient par la suite.
Le micro permit toutefois d'obtenir assez d'indices pour faire émettre des mandats de perquisition. Le 7 août, les agents lancèrent plusieurs raids simultanément sur 22 maisons et entreprises de l'île. Ils devaient amasser assez d'indices pour démanteler à jamais l'organisation de trafic du baron de la drogue James Springate. La maison de sa petite amie était une des cibles principales. Dans sa chambre à coucher, les agents trouvèrent un demi-million de dollars en argent liquide et la carte de visite d'un avocat de Panama. Ils trouvèrent également le passeport américain de Springett. Le document avait été estampillé chaque fois que le baron de la drogue s'était rendu dans d'autres îles des Caraïbes, en Colombie, au Venezuela et en Europe. En comparant ces dates avec les dates des envois de grosses quantités de narcotiques, les agents purent constater que Springett se trouvait toujours dans le pays où la cargaison était livrée. L'enquêteur Chris Howell, de la police des îles Vierges, se rendit à Augusta, en Géorgie, pour y rencontrer l'agent spécial Tim Cox du FBI et l'agent des douanes Larry Sapp.
La rencontre avec Chris Howell a été un autre coup de chance dans cette enquête. Chris détenait beaucoup d'informations sur leurs activités à Saint-Thomas. Et nous détenions beaucoup d'informations sur les activités du gang aux États-Unis. En comparant nos infos, on a constaté que le départ des suspects de l'île correspondait à leur arrivée chez nous. On a ainsi pu corroborer certaines informations. Ça nous a été très utile.
Les autorités avaient enfin assez de preuves indirectes pour épingler James Springett.
En travaillant séparément, on aurait probablement pu se constituer un dossier dans les îles et les autorités de la Géorgie auraient pu faire de même chez elles. Mais en combinant nos deux enquêtes, il nous semblait qu'on était presque invincible.
Chris Harrell voulait que le procès soit tenu en Géorgie, car il serait trop difficile de faire reconnaître Springett coupable aux îles Vierges.
Il en était presque rendu au stade de monstre. Il avait beaucoup de relations en Amérique du Sud, il avait établi ses propres itinéraires pour son trafic, ici, aux îles, et il disposait de ressources. Il y avait donc un avantage certain pour nous de travailler en Géorgie.
L'enquête progresserait si l'on établissait un lien direct entre Springett et les envois de cocaïne. Les agents examinèrent les indices une fois de plus.
Quand on avait perquisitionné la maison de la petite amie de Springett à Sainte-Croix, on avait trouvé la carte de visite d'un avocat panaméen et d'autres cartes d'une compagnie qui s'appelait Omega Sea Cargo.
Selon les registres du service des douanes, un cargo qui appartenait à la Omega Sea Cargo avait été arraisonné quelques mois après l'affrontement de Tortola. On avait fouillé le navire et l'on y avait trouvé 8 tonnes de cocaïne colombienne. En suivant cette piste, les agents firent d'autres recherches sur la compagnie et découvrirent qu'elle appartenait à James Springett.
C'était un indice très prometteur. On pouvait affirmer que Springett avait transporté 6000 kilos de narcotiques. Ça nous a fait très plaisir.
Les autorités fédérales mirent un plan au point pour démanteler les Island Boys, en commençant par le groupe d'Augusta en Géorgie. Le 15 décembre 1997, Ronnie Pemberton, le chef du gang à Augusta, essaya d'acheter 2 kilos de cocaïne de l'un de ses fournisseurs des îles Vierges. Il était surveillé par le FBI. Dans la chambre de motel voisine, l'agent Larry Sapp du service des douanes, ainsi que Tim Cox et Mike Vera Kelly du FBI, enregistrèrent la transaction à l'aide d'une caméra cachée.
Notre but était de montrer le lien entre l'organisation et le cartel colombien. On voulait découvrir à quel moment la drogue était vendue à Springett et à son organisation, de façon à attaquer les narcotrafiquants à l'échelon le plus élevé possible.
Ronnie Pemberton est venu. On pouvait le voir soupeser les sacs et tenter de déterminer lequel était le plus lourd.
Pemberton prit tout son temps pour examiner les sacs de cocaïne.
Finalement, il en a choisi deux.
L'agent spécial Tim Cox du FBI arrêta personnellement Pemberton.
J'ai dit « Bonjour, Ronnie. Tu te souviens de moi à l'aéroport ?» J'ai ajouté « Alors, c'est qui l'idiot aujourd'hui ?»
Peu de temps après l'arrestation de Pemberton, l'agent Tim Cox fut promu et transféré à un autre bureau.
J'étais un peu déçu parce que j'enquêtais sur cette affaire depuis le début. Je savais qu'on allait enfin coffrer James Springett et que je ne serais pas là pour savourer cette victoire.
Cox confia l'enquête sur les Island Boys à l'agent spécial Mike Varacalli. Au cours des mois suivants, Varacalli et son équipe continuèrent de consolider leur dossier contre Springett et les Island Boys.
Plus ça allait, plus on découvrait des choses. 10 000 kilos de cocaïne sont devenus 20 000 kilos, puis 50 000 kilos.
Moins d'un an après l'arrestation de Pemberton, un grand jury d'Augusta lut les actes d'accusation contre Springett, sa petite amie et cinq de leurs plus proches collaborateurs.
La mise en accusation était sous pli scellé pendant qu'on accumulait des indices et qu'on procédait à la reconstitution des faits. On préparait notre dossier pour la cour. On identifiait les suspects et leurs actifs.
Les enquêteurs comptaient arrêter tous les suspects simultanément pour les empêcher de s'enfuir. Mais il y avait un problème. Springett avait disparu.
C'était frustrant parce qu'on était enfin prêt à régler le cas de ce gang et qu'on ne trouvait pas le suspect principal.
Pendant deux longs mois, les autorités furent incapables de le retracer. Puis à Medellín, en Colombie, l'affaire prit une tournure dramatique. Une femme y rencontra les agents de la DEA. Elle leur dit qu'elle connaissait un important narcotrafiquant américain. Il s'appelait James Springett. À Medellín, en Colombie, les agents de la DEA eurent un gros coup de chance lors de leur recherche du narcotrafiquant James Springett. Une informatrice avait déclaré savoir où il vivait.
Elle est simplement entrée dans un bureau de la DEA et a proposé de collaborer avec les autorités.
L'enquêteur Chris Howell.
Elle a déclaré qu'il avait un penthouse luxueux à Medellín. On savait qu'il avait un appartement, mais on ignorait où il se trouvait.
La femme accepta de dire aux agents où se trouvait l'appartement de Springett, en échange de quoi elle voulait que sa famille et elle puissent refaire leur vie ailleurs sous la protection des autorités. Les agents acceptèrent ce marché. La DEA demanda au FBI et au service des douanes américaines d'Augusta d'émettre un mandat d'arrêt. Larry Sapp était alors agent pour le service des douanes.
L'agent de la DEA à Medellín m'a appelé et m'a demandé si j'avais un mandat d'arrêt pour James Springett. Bien entendu, lui ai-je répondu avec enthousiasme. Il m'a alors demandé de lui envoyer les empreintes digitales et la photo de Springett. Bref, tous les éléments dont il avait besoin pour l'arrêter.
La DEA contacta également des membres fiables de la police colombienne. Deux agents colombiens surveillèrent l'appartement de Springett et attendirent de le voir apparaître. Pour les Colombiens, il semblait que Springett partait pour de bon. Ils devaient agir rapidement.
Ils croyaient qu'ils avaient été repérés et qu'il ferait mieux de l'arrêter, et c'est ce qu'ils ont fait.
Les agents n'avaient pas le temps d'attendre des renforts. Ils passèrent à l'action.
Les deux hommes ont forcé le véhicule à se ranger et ont arrêté Springett et son conducteur par eux-mêmes, ce qui, à nos yeux, était très courageux de leur part.
L'agent spécial Tim Cox.
Quand j'ai appris que Springett était en détention en Colombie, j'étais en extase. C'était le point culminant d'une enquête de 14 ans qui avait débuté dans la rue au niveau des revendeurs de crack et qui se terminait avec les gros bonnets de la mafia colombienne qui s'approvisionnaient en cocaïne directement des producteurs.
Les agents du FBI, des douanes américaines et de la DEA convergèrent tous vers les îles Vierges pour y arrêter les complices de Springett. Les narcotrafiquants de l'île se retranchèrent bientôt derrière les murs de leur manoir fortifié.
Ces types ont dû se débarrasser de drogue partout à Sainte-Croix.
Un manoir de Saint-Thomas était si isolé et si bien protégé que les policiers des îles Vierges ne purent l'atteindre qu'en descendant en rappel le long d'une falaise pour l'approcher par l'arrière.
Il y avait des murs tout autour de la maison et des clôtures électriques. On se demandait vraiment comment on accomplirait cette mission sans mettre en péril la sécurité des policiers.
Maison après maison, l'escouade arrêta les chefs des Island Boys. Même si Springett était finalement en détention, il fut beaucoup plus difficile que prévu de le rapatrier aux États-Unis.
Il était détenu en Colombie et ça nous posait un gros problème, car il est très difficile de faire extrader quelqu'un de Colombie, d'autant plus qu'il avait alors obtenu la citoyenneté colombienne.
Les enquêteurs devraient passer à travers un long processus bureaucratique pour pouvoir enfin faire extrader le suspect aux États-Unis.
Je savais que plus James serait là-bas longtemps, plus les risques qu'il s'échappe ou que quelqu'un le fasse sortir de prison étaient grands.
Pendant sa détention, Springett payait pour avoir accès à des produits de luxe.
Il avait des serviteurs qui pouvaient sortir et aller lui chercher ce qu'il voulait. Ceux-ci lui rapportaient les choses qu'il leur avait demandées.
Le 1er mars 2000, quelques jours avant que l'extradition n'ait lieu, Springett demanda qu'on lui achète un nouveau matelas.
Quand le nouveau matelas est arrivé, il s'est glissé à l'intérieur. Le matelas était juste assez large pour contenir son corps. Le type qui lui avait apporté ce matelas l'a alors recousu. Ainsi, il n'y avait pas d'ouverture, aucun indice que quelqu'un était caché à l'intérieur.
Une enquête révéla par la suite que Springett avait versé plus de 3 millions de dollars en pots de vin pour s'assurer du succès de cette évasion. La nouvelle de l'évasion porta un dur coup au moral des enquêteurs.
J'avais consacré 10 ans de ma carrière à cette enquête pour arrêter ce type et j'apprenais qu'il s'était évadé. J'étais complètement démoralisé. On avait eu tant de mal à l'arrêter la première fois et je craignais qu'on ne le retrouve plus jamais après cette arrestation.
L'enquêteur Chris Howell.
On était revenu à la case départ. On devait maintenant déterminer ce qu'il fallait faire, mais on ne savait même pas où chercher. On n'avait aucune piste. Il aurait pu être n'importe où dans le monde.
Les agents avisèrent les attachés du FBI qui travaillaient auprès des ambassades américaines d'Amérique du Sud. Ils avisèrent également le service des douanes et les agents de la DEA des pays d'Amérique du Sud. L'agent spécial Mike Varacalli du FBI.
On a contacté Interpol. On a aussi contacté tous les pays où Springett avait des contacts. On les a informés de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois et on leur a envoyé sa description.
Une rumeur commençait à circuler à l'effet qu'il s'était fait refaire le visage et qu'il était méconnaissable. C'est presque devenu une légende urbaine. Vous savez, ce type qui est bien là, mais que personne ne réussit à trouver.
Selon les rumeurs, Springett vivait quelque part en Amérique latine et il continuait de mener ses opérations par téléphone.
James, comme nous tous, devait avoir des revenus. Quand vous dépensez des millions de dollars et que vous êtes habitué à avoir un gros train de vie, vous devez avoir beaucoup d'argent. Il a donc recommencé à générer des revenus.
En avril 2002, le FBI mit le nom de Springett sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés.
Le fait de mettre son nom sur cette liste représentait quelque chose d'important parce qu'il se trouvait sur la même affiche que des types comme Oussama Ben Laden.
Les enquêteurs suivirent également d'autres pistes et surveillèrent un vendeur de drogue qui faisait partie de l'organisation de Springett. Quand les agents eurent obtenu suffisamment d'indices compromettants contre lui, ils le fouillèrent. Ils trouvèrent une importante quantité de cocaïne et le mirent en détention. Les enquêteurs exercèrent de la pression sur le vendeur. Il décida finalement de parler. Il leur dit que Springett vivait maintenant au Venezuela, mais il ne savait pas dans quelle ville. Il ne connaissait que le numéro de téléphone du suspect. L'attaché juridique du FBI au Venezuela donna le numéro de téléphone à une unité d'élite de policiers locaux fiables. Grâce au numéro de téléphone et à des informateurs, la police vénézuélienne put trouver la maison de Springett et la surveiller.
Springett a offert 2 ou 3 millions de dollars aux policiers pour qu'ils le laissent partir.
Il y a beaucoup d'honnêtes policiers qu'aucun montant d'argent ne réussirait à corrompre. Heureusement, ces policiers vénézuéliens étaient de cette trempe.
Le FBI, la DEA et les douanes américaines travaillèrent de concert pour que Springett soit rapatrié aux États-Unis le plus rapidement possible.
Les autorités du Venezuela l'ont déclaré persona non grata parce qu'il était arrivé avec un faux passeport. Ils l'ont fait extrader du pays immédiatement.
Moins de 48 heures après son arrestation au Venezuela, les policiers remirent Springett aux mains des agents du FBI et des douanes américaines à l'aéroport. Des agents l'accompagnaient dans l'avion qui le ramenait aux États-Unis.
Il savait qu'il n'aurait aucune chance de s'en sortir si son procès était tenu à Augusta, en Géorgie, en raison de toutes les preuves qu'on avait amassées contre lui. La seule chose qu'il pouvait encore faire, s'il voulait recouvrer un jour la liberté, c'était de négocier un aveu.
Springett plaida coupable à une accusation de complot pour importer de la cocaïne. Plus tard, le baron de la drogue fut condamné à 35 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle.
Cette enquête a été très importante pour moi. On a commencé à enquêter dans la rue et l'on s'est rendu jusqu'à un suspect dont le nom figurait sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. C'est un des moments forts de ma carrière.